Aucune autre installation, je crois, n'aura une autorisation de redémarrer dans une telle situation de chaos technique. Redémarrage sur la moitié, un réacteur, un turbo-alternateur sur deux. Redémarrage avec un chantier sur le cœur pour l'installation du matériel qui va servir à remplacer le barillet. Redémarrage avec des incertitudes sur l'argon, le passage possible de bulles d'argon et ses conséquences terribles qui peuvent être l'excursion nucléaire. Et donc c'est déjà, je voulais comprendre toute la mesure de cette situation technique. La deuxième chose, donc, c'est prendre un petit peu la mesure de la situation politique. C'est clair que pour la première fois, je crois, l'année 90, a vu le ministre de l'Industrie française, M. Roger Fauroux, évoquer la mise en balance d'un arrêt possible de Superphénix ou d'une possibilité de continuation. Cette prise de position de monsieur Fauroux, le ministre de l'Industrie française, a été faite après une campagne médiatique sans précédent de l'été dernier. Je pense que tout le monde l'a connue. Et c'est clair qu'il est revenu sur ses positions, il a repris son discours lénifiant après une campagne publique et souterraine du lobby, notamment d'EDF, très importante, et du CEA, extrêmement importante. Mais la situation dans les différents services nucléaires français n'est pas claire aujourd'hui. Monsieur Tanguy, donc le responsable de la sécurité nucléaire à EDF, souhaitait dans un interview récent faire de Superphénix un prototype, revenir à un prototype, donc un deuxième prototype comme Phoenix, du type de Phoenix, sans production donc d'électricité et sans commercialisation d'électricité. Le Zinzin, le service central de sécurité des installations nucléaires, qui est donc responsable de la sécurité des installations nucléaires en France, aussi prend de plus en plus de précautions et apparemment est de plus en plus troublé par rapport à la sécurité de Superphénix. Le service central de protection des rayonnements ionisants, donc, dont le chef est M. Pellerin, aussi a été complètement discrédité à propos de Superphénix, après donc une partie à cause de l'étude donc faite par la CRIRAD sur les rejets de la centrale et notamment le rejet de plutonium. Donc c'est vrai que les Européens contre Superphénix vont se réunir dans une semaine à Grenoble et nous aurons à évaluer préciser un petit peu toutes ces évaluations à la fois techniques et politiques pour essayer d'obtenir l'arrêt définitif. Il me semble que l'arrêt définitif de Superphénix est, avec la question des déchets, l'épine la plus sérieuse dans le programme nucléaire français, et que c'est une des chances probables d'un premier arrêt du nucléaire en France.
Nous allons demander à Marc Févé de nous parler de la lutte contre l'installation de la nouvelle usine Mellox à Marcoule. Donc cette usine qui aurait pour fonction de fabriquer du MOX combustible mixte, uranium-plutonium.
Bien, je suis responsable d'un collectif qui s'est mis en place dans la région de Marcoule et qui prétend maintenant devenir un collectif national. C'est le collectif donc national d'information et d'opposition à l'usine Mellox. Alors je vais essayer de vous faire en quelques minutes un petit exposé en quatre points. Un, Plutonium Connection va se renforcer avec cette opération. Deux, je vais vous parler de Mellox, puis de son produit, le MOX. Et enfin, je vais essayer de vous dire quelques mots sur le collectif. Comme vous le savez, après quelques mois de tergiversation entre les ministères et de l'industrie et de l'environnement, le gouvernement français s'est décidé, en mai 90, à donner l'autorisation d'une usine appelée Mellox, qui fabriquera donc un nouveau combustible nucléaire contenant du plutonium le MOX. Alors ce MOX, vous le savez peut-être, est un mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium qui sera utilisé dans les réacteurs à eau pressurisée en France, n'est-ce pas, de 900 mégawatts des centrales EDF, qui aujourd'hui sont chargées d'un combustible standard, l'uranium faiblement enrichi, qui est fabriqué à Eurodif. Alors pourquoi se compliquer l'existence alors que dans nos centrales, actuellement, il y a un combustible standard qui fonctionne, ou semble, paraît-il, bien fonctionner? C'est qu'il y a un problème à résoudre, celui du plutonium produit en quantité suffisante, paraît-il, à La Hague. Ce plutonium, donc, était destiné au comme combustible au surgénérateur dont on a parlé tout à l'heure. Mais ceci, d'après les déboires de Superphénix que M. Marcellus a mentionné tout à l'heure, semblerait provisoirement abandonné. Mais vous parlez d'une reprise. Alors donc, on peut se poser le problème de ce plutonium que la commission Péon avait en 1973 envisagé pour toute une série de surgénérateurs. On envisageait, je crois, 13 à 19 surgénérateurs à l'an 2000 en France. Or, cette filière semble ne pas être fiable. Alors, donc, la COGEMA a pensé à récupérer ce plutonium dans un combustible appelé le MOX. Et ce combustible, il ne faut pas croire qu'il est arrivé comme ça spontanément, il a été mis au point dès 1963 en Belgique, peu à peu par des ateliers plus ou moins scientifiquement établis en Belgique. Je crois qu'il y a eu aussi des expériences en RFA. On a même aussi expérimenté aux États-Unis, mais les Américains ont stoppé dès 1974, pour éviter les risques de prolifération. En France, quelques essais ont été faits en 1974 à Chauss, et on l'a expérimenté sur deux assemblages. Cependant, la COGEMA, donc, a fortifié son désir de voir ce plutonium liquidé par le MOX et envisage la construction de donc cette usine qui s'appelle Mellox et dont je vais vous dire quelques mots. Effectivement, cette usine est située à Marcoul. Come lu sabies, Marculu es mais ancianos dis usino de tratadem d'uranium. C'est la plus ancienne usine de traitement d'uranium. C'est pour la raison pour laquelle elle a été choisie, cet emplacement a été choisi pour établir cette usine. C'est en Languedoc-Roussillon, pour ceux qui ne le savent pas, sur la rive droite du Rhône, sur un site fort chargé déjà en bâtiments cubiques de toutes couleurs, avec souvent de longues cheminées. C'est pourtant dans un site au paysages variés. Non loin de là, il y a un plateau, le plateau de Bagnols-sur-Cèze, des cuestas, des escarpements. On a aussi la fameuse plaine alluviale du Rhône, au pied de laquelle, eh bien, ce fleuve, large et majestueux, continue toujours à tenir un débit de 1500 mètres cubes secondes. Eh bien, là, autour de ce site, dans ce site, où il y a une population qui atteint cependant la densité de 215 habitants au kilomètre carré, eh bien, on a encore trouvé la place entre les réacteurs Célestin et Phoenix. On a trouvé encore la place pour édifier un atelier, une usine même, qu'on appelle Mellox, qui comprendra 8 bâtiments sur une plateforme de 8 hectares aménagés. Non, pardon, de 5 hectares aménagés. Alors, Pourquoi être contre Mellox? Pour différentes raisons, notamment parce que cette usine présente des risques. Premier risque, un risque de séisme. Effectivement, l'usine est établie dans une zone très sensible. Ensuite, un risque de pollution radioactive. Effectivement, l'atelier de fabrication, qui consiste à rassembler les fines poudres d'oxyde pour les lubrifier, pour en faire des pastilles, pour les friter au four, pour les rectifier, pour les ajuster, pour les mettre en gaine, cet atelier sera très radiotoxique, car des particules très très fines de plutonium, facilement inhalables, se promèneront dans cet atelier. Et malgré l'enceinte de confinement maintenue constamment en dépression, des fines particules s'évaderont du système un jour ou l'autre, à la suite d'une erreur humaine ou lors d'un transport ou d'une même peut-être malveillance. De plus, cette usine va produire quelques déchets. Je passe rapidement là-dessus. On envisage un équipement, d'ailleurs, d'une unité de retraitement, de traitement des rebuts, et on l'estime à peu près à 50 tonnes de déchets incinérables, représentant un volume, paraît-il, de 300 mètres cubes par an. Alors, il ne sait pas tout. Cette usine Mellox fabriquera le MOX. Elle ne fera pas seulement des déchets, comme je viens de le souligner, mais elle fabriquera le fameux MOX, c'est-à-dire cet assemblage d'oxyde d'uranium et de plutonium. Or, le MOX lui-même présente des dangers lors de son utilisation et de son transport. Les principaux dangers de ce MOX, c'est d'abord sa teneur en plutonium, et qui varie de 5 à 7%. En fait, les chaînes de production, de transport et de chargement du combustible s'exposent donc à une radioactivité importante. D'autre part, l'introduction dans les réacteurs EDF de ce MOX va entraîner un pilotage délicat, et le cœur risque de se comporter quelquefois avec...
Même chose pour la centrale nucléaire de Cattenom, où justement ils ont également baissé les normes pour s'aligner sur les normes allemandes. Et lorsqu'ils sont en dessous de ces normes, évidemment, ils disent, vous voyez, on ne peut pas faire mieux puisqu'on est même en dessous des normes autorisées par les Allemands. Alors vraiment, c'est un problème chez nous. Et bon, moi-même, je fais partie, au nom d'association, pas en tant que verte, de la commission locale d'information auprès de la centrale nucléaire de Cattenom. Et c'est un peu nous qui poussons cette commission pour qu'elle se réunisse. Il y a des problèmes régulièrement, parce qu'il y a 3 tranches en activité. Donc régulièrement, il y a au moins une tranche qui est à l'arrêt parce qu'il y a des problèmes. En été, il y a eu des algues qui ont bouché les grilles, donc on arrête la centrale. Enfin, sans arrêt, il y a ce genre de petits problèmes. Et il faut vraiment se battre chaque fois pour que la commission se réunisse. Et évidemment, quand la commission se réunit, c'est toujours des exposés hyper techniques où tout va toujours très bien, on réussit toujours à colmater les brèches. Enfin, c'est absolument affolant de voir ça. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'au niveau des transports, alors ça, on n'en parle pas. Alors, ironiquement, j'avais posé la question, mais est-ce qu'à Cattenom, il y a des déchets? Alors, on m'a répondu tout à fait. Et sérieusement, mais oui, bien sûr. Bien sûr qu'à Cattenom, il y a des déchets, comme si on ne le savait pas. Et alors je dis, mais les transports, ça se fait comment? Ils passent par où? Ah, mais par chemin de fer, évidemment. C'est comme si tout le monde le savait. Et bon, c'est vraiment... chez nous, c'est assez la catastrophe, parce que EDF est en train de tout acheter. C'est le grand mécène de la région Lorraine. Alors, tous les mois, il publie dans le seul journal local, c'est-à-dire le Républicain Lorrain, 10 pages publicité sur la centrale centrale nucléaire, les visites, les écologistes qui vont visiter la centrale. Enfin, c'est absolument lamentable. Ils achètent les associations, évidemment, qui sont à l'affût. Alors, ils font du mécénat culturel, des grandes expositions, sur tout et n'importe quoi, subventionnés par la fondation EDF. Récemment, ils ont encore subventionné une maison de l'eau. Donc, vraiment, ils achètent là où ils peuvent acheter. Et c'est vraiment très, très dur parce que, bon, les associations n'ont pas les moyens de faire face. Et bon, au niveau des Verts, la pression ne suffit pas encore. Alors, c'est surtout envers les collègues allemands que je m'adresse là pour une réponse.
Sauf, je préciserai peut-être quand même que c'est une anticipation sur deux débats prochain, l'un sur les transports et l'autre sur la gestion des déchets. Tu veux répondre, Andreas? Tu veux répondre ou tu as le débat sur les transports et sur les déchets? Le problème posé, c'est celui qui a été posé également par l'INSEE tout à l'heure, c'est est-ce que c'est moralement acceptable que les déchets aillent d'un pays ou d'une région à l'autre. Est-ce qu'on doit faire supporter la gestion des déchets à d'autres qu'à soi-même si on a une situation avec production de ces déchets? Mais je pense qu'il vaut mieux y revenir tout à l'heure. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrêtera là parce qu'on a pris du retard au départ et on aura du mal à tenir l'horaire. On peut passer au deuxième point. Alors, la surgénération, après le retraitement, la surgénération et éventuellement le MOX. Alors, pour la surgénération, Olivier de Marcellus, des comités anti-Malville de Genève. Et je pense que quelqu'un devrait pouvoir parler. Giraudot est là, ou pas? Bon, Olivier, vas-y.
Je vais commencer en passant en revue très rapidement les multiples problèmes que Superphénix a eu l'année dernière quand même. Il y a eu de nouveau en courant juillet une fuite qui a laissé pénétrer de l'air dans le sodium de refroidissement. Donc le confinement du réacteur était en fait cassé par la négative, si vous voulez. Les choses rentraient qui ne devaient pas y rentrer. C'est très grave puisque comme vous savez, l'air réagit avec le sodium, ça rend en pâteux le sodium, donc pouvant provoquer des bouchons dans les filtres et mener à d'autres défaillances plus graves. Et ce qui est surtout grave, c'est que personne de nouveau n'a remarqué la défaillance pendant 2 semaines, ce qui a amené même le service central de sécurité des installations nucléaires à dire que la question de la maîtrise de la centrale était posée. Aussi courant 90, il y a eu de nouveau des problèmes au réacteur Phoenix à Marcoux, donc ces fameux bulles d'argon qui se déjouant les purgeurs se sont formées dans le cœur. Et comme vous le savez aussi certainement, la CEA elle-même avait admis que ces bulles d'argon dans le cœur pouvaient, selon leur localisation, mener à une excursion nucléaire. Alors la meilleure, c'est que depuis l'année dernière, Phoenix avait déjà eu de ces bulles en 89. On avait arrêté la centrale. On avait aussi dit que ça n'avait aucun rapport d'abord avec Superphénix, mais on avait quand même prolongé l'arrêt de Superphénix 1 mois pour vérifier, pour reprendre la question des purgeurs sur Superphénix. Et après, on nous a dit que ça ne pouvait plus arriver à Phoenix parce qu'on avait justement installé les types de purgeurs qu'il y avait déjà à Superphénix et que l'accident devenait impossible. Or, une année plus tard, Phoenix a de nouveau ses problèmes. Pour finir l'année en beauté, comme vous le savez certainement aussi, au mois de décembre, un surcroît de neige a fait s'écrouler le toit d'un des deux turbo-alternateurs de la centrale. Toute liaison électrique avec l'extérieur était coupée. Heureusement, la centrale était à l'arrêt. Et heureusement, les diesels électrogènes de secours ont fonctionné. Ce qui a commencé n'est pas toujours le cas, surtout en hiver. Alors, ainsi, Crémalville a fonctionné en l'année 1990 pendant 15 jours à pleine puissance au plutonium et pendant 15 jours au diesel. Donc, malgré tout cela, et avant même d'avoir fini de déblayer donc, cette ruine qui s'est abattue sur la moitié des turbo-alternateurs, il y a encore 1500 tonnes de toiture qui recouvrent tout ça, qui recouvre aussi la fameuse hotte de déchargement qui est censée remplacer le barillet défectueux, qui lui, cette hotte est toujours soigneusement emballée dans ses caisses d'origine et a été installée, parquée à côté de cet alternateur. Tout ça est encore sous les décombres et malgré cela, on nous annonce le redémarrage de la centrale pour le deuxième trimestre de cette année. Donc, apparemment sur un seul turbo-alternateur. Donc, la centrale n'aura plus deux, mais seulement une liaison électrique avec l'extérieur, donc qui est un facteur de risque évident. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Et puis, le plat de résistance, bien sûr, c'est la question du plutonium dans le Rhône. Vous savez que le comité Malville-Lyon, la FRAPNA et Contratom à Genève ont demander à la CRIRAD de faire des prélèvements dans le Rhône et aux alentours de Superphénix. Notre idée, en fait, c'était de faire une espèce de point zéro à l'origine par rapport à un futur accident possible. On était plutôt surpris des résultats parce que, en fait, il y a déjà une pollution importante. Bon, tout d'abord, question césium. Là, on n'a pas trouvé des traces de pollution venant de la centrale. Par contre, les restes, les effets de Tchernobyl sont tout autres que ce que prétend la SCPRI, là. SCPRI, alors qu'eux, ils prétendent qu'il y avait 150 becquerels au mètre carré en césium sur le site, césium 137. La CRIRAD y a trouvé 3600, donc 20 fois plus. C'est encore une fois la précision qu'on s'attend de la part de professeur Pellerin. Mais question plutonium, c'est encore plus grave. Bon, faute de moyens, on a fait des mesures de plutonium dans les sédiments au fond du Rhône. Des prélèvements en amont et en aval. Et là, on a trouvé deux fois plus de. Une concentration deux fois plus élevée en aval qu'en amont. Environ 243 millibecquerels en aval contre 104 en amont. En fait, probablement, même ce qu'on a trouvé en amont est dû à la centrale. On s'est rendu compte après coup qu'en fait, il y a des retours dans le courant, on n'a pas en fait fait les prélèvements assez en amont. À tout cela, la direction a répondu avec beaucoup d'aplomb. Ils ont réussi à relativement dégonfler l'affaire dans le niveau des médias parce qu'ils ont répondu tout de go qu'on avait trouvé bien plus de plutonium que ça dans les relevés avant de construire la centrale, qu'ils avaient trouvé 600 millibecquerels, et puis que tout ça, c'était dû aux essais nucléaires. Alors, c'est vraiment très curieux, parce que, d'une part, c'est environ 10 fois plus que ce qu'on trouve normalement en France suite aux essais nucléaires. Et deuxièmement, on a les documents de la centrale qui précisent bien dans le point zéro qu'ils n'ont jamais mesuré la pollution plutonium avant de construire la centrale, ce qui est logique puisqu'ils n'ont justement le droit d'en rejeter aucune quantité dans l'environnement. Donc c'était logique de ne pas le mesurer. La presse suisse a quand même embêté les directeurs un peu sur cette question, on leur a dit les questions qu'il fallait poser. Alors, au bout d'un moment, ils ont admis que non, effectivement, eux, ils n'avaient jamais mesuré pour le plutonium autour de la centrale, mais que c'était les SCPRI qui l'auraient fait. Alors, les journalistes ont demandé de voir les documents, alors on leur a dit que malheureusement, ces documents étaient confidentiels. Alors, voilà où on est au niveau du dialogue scientifique en France aujourd'hui. Les résultats sont confidentiels. Alors, c'est bien clair que nous ne voulons pas en rester là. On va essayer de les coincer aussi bien que possible. Alors, on va certainement faire une nouvelle série de mesures. Cette fois-ci, on espère faire payer notamment les autorités suisses du canton de Genève, la ville de Genève, la ville de Lausanne. J'arrive au bout. Et puis les coincer sur cette question du plutonium qui est quand même très intéressante puisque selon le décret d'autorisation, ils n'ont absolument pas le droit d'en rejeter. Donc il y a peut-être possibilité aussi de faire un travail juridique à ce niveau-là. Maintenant, je voudrais juste, si possible, peut-être que Thierry pourrait dire quelques mots sur plutôt les aspects politiques de l'affaire. Moi, j'aurais une question aussi à poser qui est pourquoi est-ce qu'il continue? C'est pas si clair que ça, finalement. Est-ce que c'est une espèce d'inertie bureaucratique? Est-ce que les aspects militaires sont finalement plus importants que ce qu'on a bien voulu croire? Bon, maintenant, il y a avec l'affaire du Gol.